Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis stressé, doublement stressé. Je suis de ceux qui passent plus de temps à préparer son PowerPoint qu'à écrire le message en lui-même. Figurez-vous que ce matin, j'arrive dans l'église et je réalise que j'ai oublié mon PowerPoint à la maison. Donc ce matin, ça va être une prédication à l'ancienne. Doublement stressé, pourquoi ? Je viens de faire la connaissance, il y a quelques minutes, d'une personne qui nous vient d'un autre pays, d'un autre continent, d'une autre culture, qui ne connaît rien à la religion chrétienne. Ça tombe bien ? Ce matin, on voulait expliquer ce que c'est que Noël. Mais expliquer Noël à quelqu'un qui a un arrière-plan chrétien, c'est une chose. Expliquer Noël à quelqu'un qui ne connaît rien à la religion chrétienne, c'en est une autre. Alors, merci de prier pour moi ce matin. Je suis, plein de stress. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, et c'est lui qui parle ce matin. La personne en question m'a dit qu'elle a entendu des cantiques. Cette personne habite l'immeuble juste au-dessus. Elle a bien voulu passer ce matin, voir ce que c'était. Voilà, bienvenue à cette personne. Je ne vais pas la présenter, vous l'avez compris. Bienvenue parmi nous et que Dieu nous bénisse tous et chacun de manière très riche. Donc cette personne a entendu les cantiques et ça tombe bien parce qu'il est question de cantiques ce matin. Nous avons commencé dimanche passé une série de prédications autour de quatre cantiques qui nous parlent de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, le Messie tant attendu, l'envoyé de Dieu, ce que nous fêtons à Noël. Et ce matin, nous allons aborder ensemble ce deuxième cantique, le cantique de Zacharie. Vous savez, l'humanité chante, s'exprime par la chanson, par le chant, depuis toujours. Je regardais rapidement dans ma Bible, mais dès les premiers versets de la Genèse, dans le livre de Job, celui qui raconte le vécu des patriarches, donc à l'origine de l'humanité, on chantait déjà. Pourquoi ? Pourquoi on chante à l'église ? Parce que le chant, le cantique, exprime simplement ce qu'on a au plus profond de notre être. La Bible dit que Dieu nous parle par notre intelligence, que Dieu nous parle par notre ressenti, Dieu se manifeste dans tout ce que nous sommes, corps, âme, esprit. Alors ce matin, nous voulons écouter ce que le cantique de Zacharie veut nous dire. Mais plus que regarder ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, que je vous invite à chercher dans vos Bibles, je ne pourrais pas présenter le texte à l'écran, vous l'avez compris, donc vous devez avoir une Bible. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ma Bible, ma vraie Bible. D'habitude, j'ai une tablette. Vous imaginez si je n'avais pas Internet ou j'avais cassé ma tablette. Quel malheur. Je vous invite à prendre une Bible, si vous n'en avez pas une. Et on va chercher ce texte que nous voulons regarder ensemble ce matin dans un des évangiles, donc l'évangile de Luc. Et ce texte se trouve dans le chapitre 1er. Mais avant d'aller faire la lecture de ce texte, le texte qui nous intéresse ce matin se trouve à partir du verset 67. On va lire les versets 67 à 79. Évangile de Luc, chapitre 1er, versets 67 à 79. Mais avant de lire le texte, c'est important de comprendre un petit peu le contexte, comprendre un petit peu les coulisses de ce qui se passe autour de ce texte que nous voulons regarder ce matin. Et je vous invite à lire les versets 5 à 7 du premier chapitre de l'Évangile de Luc. Je fais la lecture. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Ça pose le cadre de notre histoire ce matin. Zacharie est un sacrificateur, donc de la tribu de Lévi. Sa femme Élisabeth, fille descendante directe d'Aaron, le couple parfait. J'imagine Zacharie, le jour où il rencontre Élisabeth. C'est super, la femme parfaite. Elle pourra connaître mieux que personne ce qui touche aux choses des dieux. La femme idéale, le couple parfait. J'imagine la joie le jour du mariage, cette fête grandiose. J'imagine pendant la fête, comme le voulait la tradition juive, ses souhaits de bénédiction. Qu'il plaise à Dieu de vous donner beaucoup d'enfants. Et il y a ce verset 7. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Quelle douleur pour ce couple qui tous les deux craignaient Dieu, qui tous les deux aimaient Dieu de toute leur force. On imagine les prières de ce couple, on imagine les larmes, on imagine les questions sans réponse entre ces lignes. Est-ce que vous avez déjà désiré dans votre cœur quelque chose tellement ardemment, quelque chose pour laquelle vous avez prié et que vous n'avez jamais reçu? On ressent dans ce verset la frustration, sans doute, d'Élisabeth, de Zacharie, la déception, qu'à un moment donné se transforme en chagrin, le chagrin qui vire au désespoir, et le désespoir qui se transforme en résignation. Nous allons aller un peu plus loin dans le contexte. Je vous invite à prendre, toujours au chapitre 1er, à partir du verset 11. Je vous ai dit, Zacharie était un sacrificateur, un prêtre, membre de la tribu de Lévi. Vous savez, les Lévites étaient des milliers. Et combien même le temple de Jérusalem était grand, il y avait plein de choses à faire dans ce temple, c'était impossible que tout le monde puisse servir en même temps. Et pour certaines tâches en particulier, ils ont mis en place un système de tirage au sort. Et l'attente des Lévites, de ces prêtres, de ces sacrificateurs, était que Dieu puisse les choisir pour servir dans le temple. Et il se trouve que le tirage au sort tombe sur Zacharie, alors qu'il était déjà très avancé en âge. Il était près de la retraite au moment où ça arrive. Alors nous lisons au chapitre 11 qu'il servait dans le temple, et voici ce que le texte dit. « Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui, mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Vous imaginez la scène. Zacharie, à cet endroit où on offre les parfums. Vous savez, pour juste poser un petit peu plus le contexte, c'était juste à côté du lieu très saint. Cet endroit qui était séparé par le voile. Cet endroit où seulement une fois par année, le grand sacrificateur pouvait rentrer. Zacharie, il était juste derrière ce voile. Il était en train d'offrir de l'encens et des parfums. Et à ce moment-là, alors que ce vieux routier de la foi connaissait tout sur Dieu, il se retrouve confronté à cet ange, l'ange Gabriel, qui lui fait cette annonce merveilleuse. Dieu a entendu ta prière. Ta femme, Élisabeth, sera enceinte. Dieu a prévu un plan merveilleux pour l'enfant qui va vous naître. Waouh ! Quel message ! Vous savez ce qui se passe ? Zacharie lui dit, les petits vieux ne font pas de bébé. Zacharie ne croit pas l'ange. Zacharie demande un signe. Et l'ange lui donne ce signe, lui dit, au moment où les choses s'accompliront, tu pourras à nouveau parler. Et Zacharie reste muet. Zacharie finit son service. Il descend chez lui, auprès de sa femme. Sa femme tombe enceinte. 9 mois se passent, et voilà que Jean est là. La naissance de celui qui sera le prophète tant attendu et annoncé, celui qui préparera le chemin de celui qui arrive, le Messie. Zacharie retrouve la parole, et à ce moment-là, il va chanter. Il y a ce cantique dont maintenant nous voulons faire la lecture. Je vous invite à prendre maintenant, à partir du verset 67, le cantique de Zacharie. Peut-être encore un mot, le verset 67. La naissance arrive, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, c'est merveilleux. Dieu a accordé cet enfant à ce vieux couple. 2 personnes âgées, quel miracle! Quel miracle! 2e miracle, Zacharie recouvre la parole. On comprend la joie. On comprend qu'une personne puisse vouloir exprimer sa joie, sa louange à Dieu. Mais regardez le verset 67. Zacharie, son père, le père de Jean, fut rempli d'esprit et prophétisa en ces termes. En somme, le texte nous dit, attendez, ce n'est pas juste l'homme rempli d'une joie profonde qui énonce ses paroles. Non, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse Zacharie en ce moment à prophétiser en ces termes. Je lis à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance des ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance. Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Je pense que si on rajoutait la mélodie avec ces paroles poétiques, ce serait encore plus beau, ça rendrait encore plus beau. On dit que ce cantique est subdivisé en deux parties. Une partie qui parle des promesses accomplies par Dieu et une deuxième partie qui parle de ce que Jean, celui qu'on va appeler Baptiste, va accomplir au travers de son ministère. Et moi, je serais incapable, c'est pour ça que je ne le propose pas. On ne va pas faire une analyse textuelle et systématique, verset par verset de ce cantique, mais je me suis juste attaché à choisir quelques idées que j'aimerais partager avec vous, quelques idées qui, à mon sens, nous rappellent le cœur de ce que c'est que Noël et son message. J'aimerais que vous reteniez trois mots ce matin. Trois mots. Salut, transformation, destinée. Trois mots qui se trouvent contenus dans ces versets. Salut, transformation, destinée. Je fais un contrôle à la fin, hein, attention. Excellent. Je suis vraiment embêté, je n'ai pas mes slides. OK. Je veux juste, pour ce premier mot qui est le but ultime, l'objectif premier, on parle de Noël, on parle de la venue du Messie, de l'envoyé des dieux, vous savez. Mais c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif de tout cela? Le texte qu'on a lu nous parle d'un Dieu qui agit dans l'histoire de l'humanité. La Bible nous dit que dès le premier moment de l'humanité, alors que Dieu avait créé toute chose parfaite, alors que Dieu avait créé l'homme et la femme, alors que Dieu avait tout donné à l'homme et à la femme pour être heureux, l'homme et la femme décident de se détourner de Dieu, de renoncer à cet amour inconditionnel, sans faille, parfait. Et Dieu, à ce moment-là, dès ce moment-là, promet un sauveur, une délivrance. La Bible nous raconte l'histoire de l'humanité au travers du peuple choisi, le peuple d'Israël. Ses interventions, sa façon dont il conduit les uns et les autres, et des annonces, des prophéties, des signes sont donnés pour pointer du doigt ce qui allait arriver. Je ne suis pas allé vérifier, mais il semblerait qu'il y ait plus de 450 signes annonciateurs de la venue du Fils de Dieu, le Messie. Dieu prépare l'humanité pour ce moment si particulier qui est en train d'arriver au moment où on lit ces textes. Je lis au verset 68. Béni soit le Père, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Vous savez, Dieu ne s'est pas dit un jour, tiens, je vais aller voir comment va l'humanité. La mythologie grecque nous raconte que des dieux avaient pour habitude de faire ça. Ils vivaient là-haut et puis de temps en temps, ils descendaient voir comment allait l'humanité. Ce n'est pas le cas de Dieu. Il ne s'ennuyait pas dans son ciel. au moment où il a décidé de visiter l'humanité. Non, il l'a vu, le besoin de l'homme, le besoin de la femme, et de manière intentionnelle est venu se manifester à nous, avec un objectif, on le retrouve au verset 68, nous racheter. Verset 69, nous racheter et nous procurer une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Il est question de délivrance dans ce verset. Je ne sais pas vous, moi je ne me sens pas particulièrement emprisonné. Verset 71. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Légitimement, nous nous posons la question, mais qui sont ces ennemis? Qui sont ces personnes qui nous haïssent? On peut le comprendre si on le contextualise dans cette histoire. Israël, de tout temps, a eu des difficultés. Esclave pendant plus de 400 ans en Égypte, une fois arrivé à la terre promise, que des guerres, que des conflits, envahis par les Philistins, par les Assyriens, constamment des conflits. Peu de moments dans son histoire, Israël a connu des moments de paix. On peut comprendre que pour Israël, c'était important de recevoir un sauveur, quelqu'un qui allait enfin de les livrer à ce moment-là des envahisseurs romains. Mais nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas ces histoires, qui ne croient peut-être pas à ces histoires, on peut se poser la question, est-ce que nous autres, nous sommes concernés? Qui sont nos ennemis? Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, un journal américain faisait les sondages et se posait la même question. Mais aujourd'hui, c'est qui nos ennemis? Les uns disaient, à l'époque, c'était Saddam Hussein. Après, c'était Al-Qaïda. Après, c'était les terroristes. Voilà, nos ennemis. Et puis, un dessinateur humoristique a répondu à cette question en disant, nous avons rencontré l'ennemi. L'ennemi, c'est nous. Vous savez, 2000 ans avant cet humoriste, Jésus-Christ, celui qui naît à Noël, avait déjà fait ce constat. L'ennemi, c'est nous. Et à l'intérieur de nous, il a dit, c'est de l'intérieur de nous, c'est de nos cœurs qui sortent les mauvaises choses. Les mensonges, les tromperies, les meurtres. L'ennemi est en nous. Et c'est de cela que le texte parle. C'est de cela que Dieu veut nous sauver. C'est pour cela que Jésus, le Fils des dieux, le Messie annoncé de toute éternité, est venu nous délivrer. Je saute au verset 77. Zacharie dit dans son cantique, pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Combien, quand nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu, à sa perfection, nous nous sentons coupables. Quelle est la première chose que Adam, le premier homme, a fait quand il a péché contre Dieu? Il est allé se cacher. Vous savez, quand Jean explique la venue de Jésus-Christ, de cette lumière qui vient dans le monde, il fait ce constat. Les hommes ont rejeté la lumière parce qu'ils ont eu honte des ténèbres dans lesquelles ils vivaient. Zacharie nous annonce dans ce verset que Jésus, le Messie, est venu non seulement pour nous donner la connaissance du salut, mais aussi pour nous pardonner, pour nous enlever cette culpabilité qui aujourd'hui nous rend incapables de nous rapprocher de Dieu. Le but ultime de Dieu, c'est de nous sauver, de nous délivrer, de nous sortir des prisons dans lesquelles nous sommes, dont trop souvent nous n'en avons pas conscience. Pour nous donner une nouvelle position. Et on arrive à deuxième mot, transformation. Dieu souhaite nous réhabiliter. Dieu souhaite retrouver avec nous une nouvelle relation, une nouvelle communion, une nouvelle, un nouveau vécu avec nous. Vous savez, tous ceux qui existaient avant le péché originel. Je lis au verset 74 et 75 de notre texte. Ainsi, nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans craindre lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Dieu opère en nous un miracle au moment où on se rapproche de lui par Jésus-Christ. Dieu opère en nous un miracle qui se passe au moment où on place notre foi, notre confiance dans ce Messie annoncé. Il y a quelque chose qui s'opère dans notre vie tout au long de notre existence. C'est cette œuvre de génération ou régénération dont la Bible parle. Dieu nous transforme. Dieu ne souhaite pas que nous continuions à vivre tel qu'on vivait avant qu'on ne le connaisse. Dieu veut nous changer profondément. Et Dieu opère en nous trois transformations. Une transformation d'ordre spirituel. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les deux versets qu'on a lus qu'il est question de servir. La Bible dit que nous étions vendus autrefois au péché. Nous étions esclaves du péché. La Bible dit que nous avions pour maître le diable avant de rencontrer Dieu. Au moment où on se donne à Dieu, il se passe quelque chose de spirituel. Dieu nous rend capables de servir le Dieu créateur des cieux et de la terre. Dieu nous rend capables de rendre un culte agréable, bon, parfait à ce créateur qu'on aura retrouvé. Dieu opère une deuxième transformation, une transformation émotionnelle. Le texte nous parle de servir sans crainte. On a parlé de cette peur, cette réaction qu'on a avant de connaître Dieu, de s'approcher de lui. Combien de gens vivent aujourd'hui dans cette crainte, cette peur de s'approcher de Dieu ? Et même nous, parfois, quand il nous arrive de pécher, de ne pas vouloir venir en sa présence. Le texte nous dit qu'il nous rend capables de servir sans crainte. C'est-à-dire qu'on retrouve dans notre relation renouvelée avec Dieu une autre relation que celle de créature, enfin, créateur-créature, maître-serviteur. une nouvelle relation, filiale cette fois-ci, vient nous rassurer dans notre relation à Dieu. La Bible parle de l'amour. Je rappelle juste ce verset de 1 Jean 4, 19 qui dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ce bébé qui arrive à Noël, on le sait, il n'est pas resté bébé, il a grandi, il est devenu un homme. Et vers 33 ans, il a fait le choix de monter sur cette croix du calvaire. Il a fait le choix, par amour pour nous, de prendre sur lui la punition que nos péchés méritaient. Il a fait le choix de nous aimer jusqu'au bout. Pour nous, comme le dit le texte, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et troisième transformation que Dieu opère en nous, c'est la transformation comportementale. Le texte nous dit que dans la sainteté et dans la justice, nous allons marcher dans sa présence pour toujours. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment vous étiez avant d'être chrétien. Moi, je m'en souviens. Et pourtant, je me suis converti tôt. Le Seigneur m'a visité, m'a touché quand j'avais 15 ans. Mais je me souviens encore comment j'étais avant de connaître Dieu. Les bêtises que j'ai pu faire. Bon, j'en ai fait d'autres après, hein, je vous rassure. Mais la bonne nouvelle de Noël, c'est que Dieu opère en nous une transformation dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. C'est pour ça que la Bible nous exhorte à ne plus marcher comme autrefois. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, dans Philippiens 1, 27, à nous conduire d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est un des versets qui me fait le plus trembler. Se conduire d'une manière digne de Dieu. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, entre autres, nous exhorte à devenir les imitateurs de Dieu. Dieu veut changer nos vies, nos existences. C'est ça la bonne nouvelle de Noël. Noël, c'est comprendre que Jésus-Christ est venu pour que nous qui étions perdus dans nos péchés, nous devenions des serviteurs de Dieu. Qu'il est venu pour que nous qui servions un autre maître avant, nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Il est venu pour que nous qui craignions d'être en face de Dieu, nous puissions être réconciliés avec lui. Il est venu pour que nous qui nous sentions déconnectés de tout ce qui avait un but, nous puissions avoir la vie en abondance. Il est venu pour que nous qui ne pouvions pas plaire à Dieu, de par notre comportement, notre conduite, nous puissions devenir des personnes qui lui sont agréables. Il est venu pour nous qui n'étions pas saints, loin de là. Nous puissions avoir des vies qui sont alignées selon lui et pour que nous puissions marcher selon ses voies. C'est ça, la réhabilitation transformatrice du message de Noël. Et puis on arrive au troisième mot, destinée. On a vu que Noël, c'est le salut, que Noël, c'est une transformation. Il y en a qui suivent, merci. Et le troisième mot, c'est la destinée. Et voilà, on va finir avec ce troisième mot, une destinée. Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui en ce qui concerne demain, le fait de croire ou pas à Noël, au Messie annoncé, à Jésus-Christ qui vient dans ce monde. On veut lire le verset 78 et 79, juste pour tirer les idées que je vais vous partager ce matin. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Petit clin d'œil pour les romantiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lever de soleil. Le dernier que j'ai vu, c'était aux îles Comores. Tu te rappelles, Daniel ? On est allé voir les tortues géantes qui pondaient des œufs, qui venaient sur la plage et qui repartaient. C'était en pleine nuit et puis on a attendu jusqu'au petit matin. Et j'ai encore en tête ces images de ces tortues qui retournent à la mer alors que le jour est en train de se lever. Merveilleuse image. De voir comment le soleil qui se lève dans l'horizon perce la nuit. Et puis, ce qui est obscur devient de plus en plus clair. Voilà comment on présente la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Dieu nous visite et par sa lumière, il vient chasser les ténèbres. Et dans quelques villes que vous alliez, disait Jésus à ses disciples, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà le message de Noël. Un Dieu qui nous visite, un Dieu qui s'est dit lui-même le soleil brillant, un Dieu qui vient pour éclairer nos vies, pour nous apporter sa lumière. Destiné, parce que c'est la fin des vies sans espoir. Combien de gens autour de nous vivent sans espoir? Combien de gens autour de nous, dans ce contexte de crise sanitaire en particulier, sont désespérés? J'ai encore en tête une conversation entre Sophie et une amie au téléphone. La peur, la terreur de ne pas attraper ce nouveau variant. Le désespoir. Cette lumière est venue pour briller sur ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Jésus, la lumière. Jésus suit la lumière du monde, disait Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est quoi les ténèbres? Si c'est ces choses noires qui remplissent nos vies, ces craintes, ces peurs, ces questionnements, ces interrogations concernant l'avenir, ce qu'on ne sait pas, ce qui nous écrase. Et enfin, c'est ce verset 79, la fin du verset 79, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Nous sommes en chemin. Nous sommes tous en chemin. La question, c'est pour aller où? Le message de Noël vient nous proposer ce chemin qui va vers la paix, qui va vers celui qui est la paix, celui qui est éternel, celui qui nous attend les bras grands ouverts au ciel. J'ai parfois dit que je n'ai pas peur de mourir. Et souvent, on m'a dit, mais t'es prétentieux. C'est n'importe quoi de dire ça. Mais je sais que si jamais demain, j'attrape le variant Omicron, parce que je n'ai pas encore ma troisième dose, j'ai pris rendez-vous dans quelques semaines, parce que je fais partie maintenant de la catégorie des personnes à risque, donc je fais partie des vieux, je vais pouvoir avoir droit à ma troisième dose. Mais si je l'attrape et si je meurs, je n'ai pas peur. Si je sors tout à l'heure ici, je me fais écraser par une voiture, je n'ai pas peur. Je sais qu'au moment où mes yeux physiques vont se refermer, je vais aller dans la gloire en présence de Dieu mon Père, parce que j'aurai cru au Messie, à Jésus-Christ, celui qui m'a racheté pour que je puisse vivre éternellement. Je conclue. Alors Noël, c'est quoi? Qu'est-ce que nous dit Zacharie ce matin? J'aimerais juste faire remarquer qu'il y a deux Zacharie dans notre histoire de ce matin. Zacharie, l'incrédule, vous vous rappelez au tout début, qui n'a pas cru. Alors que Zacharie savait tout sur Dieu. Il connaissait les choses de Dieu. Mais sa première réaction, c'était l'incrédulité. Et on retrouve un deuxième Zacharie, au verset 67, qui expérimente la vie de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa réalité, et qui lui permet de prophétiser, d'entrevoir. C'est que peut-être ses yeux physiques, et sans doute ses yeux physiques, n'ont pas vu le Messie. Quel Zacharie sommes-nous ce matin? C'est la première question qu'on peut se poser à l'approche de Noël. Est-ce que je suis de ceux qui connaissent des choses sur Dieu? Ou est-ce que je suis de ceux qui ont expérimenté la foi que Noël vient annoncer? Le message de Noël, c'est trois choses, trois mots. Le salut, une transformation et une destinée. Vous savez, je vais finir avec cette petite histoire que vous connaissez sans doute. Ce funambule, hein, vous connaissez l'histoire de ce funambule qui traversait les chutes de Niagara, donc sur cette corde raide. Et puis, les gens étaient là, regardaient, et puis applaudissaient. Bravo, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, alors qu'ils venaient de traverser ces chutes, le vide en dessous, juste tenu en équilibre sur cette corde, sans harnais, sans filet, sans rien, il dit, est-ce que vous croyez que je peux le faire sans la perche? Ah oui, on croit, bravo. Et puis notre funambule qui traverse à nouveau cette corde raide, sans perche, et les gens sont dans l'extase. Waouh, bravo. Excellent. Le funambule de dire, d'interpeller la foule et dire, est-ce que vous pensez que je peux traverser à nouveau cette corde raide en tenant une brouette à la main, en poussant une brouette? Oui, tu peux, vas-y, bravo. Et il le fait. Les gens sont dans une espèce d'extase totale. Le funambule interpelle la foule et dit, est-ce que vous pensez que je peux prendre quelqu'un dans la boîte et traverser avec? Oui, tu peux. À ce moment-là, il demande, qui veut bien monter dans la boîte? Et là, il n'y a personne. La foi, c'est ça. On peut croire, on peut connaître des choses. Mais tant qu'on n'est pas dans la boîte, on n'y est pas vraiment. Le message de Noël, et c'est à ça que je nous invite ce matin, c'est non seulement de connaître la foi, mais de l'expérimenter. Alors que ces trois mots, salut, transformation, destinée, sont une réalité pour nous, premièrement. Mais qu'on fasse tout ce qui est à notre niveau, tout ce qui dépend de nous, pour que ce le soit aussi pour ceux qui sont autour de nous, ceux que nous aimons et à qui nous tenons. Que Dieu bénisse sa parole.